Vous êtes sur RTL.
Ils auront la parole sur RTL.
Et je rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, que des échanges entre Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog sur des lignes non officielles ouvertes sous le nom d'emprunt de Paul Bismuth laissaient entendre qu'ils avaient tenté d'obtenir des informations couvertes par le secret de l'instruction auprès du haut magistrat Gilbert Azibert, qui est lui-même renvoyé en contrepartie de la promesse d'un poste à Monaco. C'est une affaire qui est un poil complexe. Cédric, chef d'entreprise donc dans l'Ain.
Oui.
Quel est votre sentiment ?
Alors, mon sentiment, alors j'attends ce procès avec attention, et parce que la première chose, c'est que ça fait longtemps que ça traîne, puisque ça fait maintenant 7 ans, je crois, que l'instruction était ouverte. Par ailleurs, j'aimerais, au-delà du fait de toutes ces écoutes, etc., etc., j'aimerais connaître la façon dont ont été faites ces écoutes. Vous voyez ce que je veux dire? Même Maître Dupond-Moretti est intervenu, qui est aujourd'hui ministre de la Justice, est intervenu pour dénoncer un peu ces différentes écoutes. Donc ça m'intéresse.
Ça, on le sait, c'était des écoutes dans le cadre de l'affaire libyenne. Et je vous rappelle que Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog avaient tenté d'obtenir leur annulation, mais que la Cour de cassation avait validé ces écoutes en mars 2016.
Alors, si je peux me permettre, il me semble que c'est des écoutes concernant l'affaire Bettencourt, et pas forcément libyenne.
Alors, mais bon, oui. Oui, alors il est possible qu'effectivement vous ayez... C'est-à-dire que comme le président de la République a été écouté sur une longue période, c'était sur l'affaire Bettencourt, peut-être au début, et peut-être avez-vous raison sur ce point.
Ou d'ailleurs, il y a eu un non-lieu pour cette affaire.
Tout à fait.
Donc, par ailleurs, pour revenir à cette affaire, dans la définitive, quand on lit les journaux, le magistrat qui devait avoir un poste à Monaco ne l'a pas eu.
Tout à fait.
Nicolas Sarkozy n'est pas intervenu directement, puisque c'est passé par Thierry Herzog. Par ailleurs, au-delà du fait qu'il n'ait pas eu de poste à Monaco, la Cour de cassation n'a pas favorisé non plus Nicolas Sarkozy. Donc, si je peux me permettre, c'est certainement une affaire qui va faire pchit, comme disait Jacques Chirac, et qui va préparer certainement des futures présidentielles, je pense, puisque ça va permettre à Nicolas Sarkozy de se débarrasser définitivement de cette affaire, où finalement, il n'y a pas d'éléments vraiment concrets ou matériels dans cette affaire contre Nicolas Sarkozy, puisque lui, directement, il n'est jamais intervenu. Et sur toutes les écoutes qu'il y a eu, il y a seulement 3%, c'est-à-dire 5 appels qui parlent de ce fameux dossier. Donc, en définitive, on a fait beaucoup pour pas grand-chose, je trouve.
Il est 13h05 et pour tout vous dire, Thierry Herzog, qui est l'avocat historique de Nicolas Sarkozy et qui est également renvoyé devant le tribunal correctionnel, eh bien Thierry Herzog est en train d'arriver à son procès. Et l'image qu'on attend, bien sûr, c'est l'arrivée de Nicolas Sarkozy, qui a dit qu'il serait présent. Or, Jacques Chirac, par exemple, n'avait pas été présent lorsqu'il avait été jugé et condamné d'ailleurs en 2011 pour les emplois fictifs de la ville de Paris. Il n'avait jamais comparu devant ses juges en raison de son état de santé. Donc ça va être une image extrêmement forte puisque c'est la première fois qu'un ancien chef de l'État va comparaître à partir d'aujourd'hui dans cette affaire et va être devant le conseil, devant la cour correctionnelle, pardonnez-moi. Image que l'on attend à 13h06. Merci Cédric, en tout cas, de votre première intervention. Est-ce qu'on va marquer une première page de publicité alors que Thierry Herzog est donc dans le palais de justice de Paris? À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Le procès de Nicolas Sarkozy qui va comparaître aujourd'hui dans l'affaire des écoutes aux côtés de son avocat Thierry Herzog et de l'ex-haut magistrat Gilbert Azibert est prévu à 13h30. Il est à 13h07 pour le moment et vous pouvez intervenir pour donner votre avis. C'est le cas de François qui habite en Orbec. Bonjour.
Oui, bonjour Pascal.
Et merci.
Ben, oui. Ben de rien.
Vous êtes peut-être pour que les choses soient claires, vous êtes un sarkoziste parce que je le dis, il y a beaucoup de pro-sarko qui nous appellent manifestement et qui ont envie de se faire entendre.
Non, eh ben non, moi je suis pas un sarkozyste, alors qu'on m'en excuse, hein, je vais peut-être, mais c'est comme ça, la vie est faite ainsi. Hein. Il y en a des pour, il y a des contre, mais je suis pas contre la personne en elle-même pour autant. Simplement, l'affaire me fait penser à une saga formidable, parce que dans cette affaire, faut pas oublier que elle est presque plus dangereuse que la Covid, quand on voit qu'il y a quand même eu des morts, des blessés, des victimes de maladies soudaines dans toute cette affaire depuis 2013. Et je me dis que mieux vaut se tenir loin des affaires avec Nicolas Sarkozy que trop près, parce que les témoins, il n'en existe plus beaucoup dans cette affaire.
Mais dans l'affaire Bismuth, vous parlez de quelle affaire? Oui. Dans l'affaire Bismuth.
Dans l'affaire libyenne.
Non, mais là on est sur l'affaire Bismuth. Là, on n'est pas l'affaire libyenne qui est encore autre chose.
L'affaire Bismuth,
parce que là, il n'y a pas beaucoup de témoins, vous savez. Il n'y a pas beaucoup de disparitions, me semble-t-il.
Non, il n'y a pas beaucoup de disparitions. Le plus à plaindre, quand même, c'est le vrai Paul Bismuth, parce qu'il en existe quelques-uns, mais un qui est en Israël et qui a été bombardé d'appels des médias, lui disant, alors vous faites partie de cette affaire. Il a fallu qu'il démontre qu'il y était pour rien. Mais l'affaire Bismuth, moi, il y a quand même quelque chose qui me gêne. Je ne suis pas un pro-Sarkozy. Hein. Mais il y a quelque chose qui me gêne, c'est-à-dire que ça a montré que la justice, à un moment donné, peut interférer dans les communications entre un avocat et son client. Après, qu'ils aient pris le nom de Paul Bismuth ou pas, Paul Bismuth aurait pu être un client de Maître Herzog.
Non, mais j'entends bien, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, la Cour de cassation s'est prononcée là-dessus et elle a validé ses écoutes.
Oui, elle a validé ses écoutes et c'est ça qui est assez... elle a validé ses écoutes, mais il ne faut pas oublier non plus, c'est que Nicolas Sarkozy, à une époque, a eu tendance à regarder les juges d'une certaine façon, les petits pois. Vous savez qu'il avait...
Bien sûr, c'est pour ça que le règlement de compte est la thèse que certains défendent. Durant son quinquennat, Nicolas Sarkozy a eu des relations difficiles avec les juges. Il voulait d'ailleurs supprimer le juge d'instruction. Et peut-être que certains lui font payer cette attitude.
Voilà. Ça joue aujourd'hui, parce que c'est pour ça qu'il est devant la justice et qu'il doit répondre de certains faits qui seront certainement, comme a dit l'auditeur avant, ça fera un petit shit. Mais contrairement à l'auditeur d'avant, je ne suis pas certain que ce soit pour que Nicolas Sarkozy soit en première ligne aux prochaines élections, mais il sera un soutien certain pour Emmanuel Macron, qui aura besoin de ce soutien pour pouvoir être élu. D'ailleurs, certains de la droite ont déjà commencé, comme M. Raffarin, lorsqu'il passe dans les médias. Donc, Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, a besoin d'être, on va dire, entre parenthèses, lavé, essoré, je sais pas, détaché, peut-être, hein, de ses soupçons, d'une façon ou d'une autre. Et j'ai remarqué qu'en France, quand un chef d'État, un ministre, est jugé, il y a toujours responsable, mais pas coupable. Donc, je pense que quelque part, on lui entendra rapport rigueur pour 2022 et il pourra agir normalement et tout ça, ce sera franchement une bonne affaire qui aurait fait certainement un très bon film et c'est peut-être dommage que les jugements aujourd'hui de ces affaires-là ne soient pas filmés et retransmis une fois que le jugement et les sentences sont tombées. Parce que ça nous permettrait de peut-être voir un petit peu comment ça se passe.
Ben merci François, et je rappelle, parce que tout à l'heure on a eu une précision, l'origine de ces écoutes, l'affaire des écoutes, également appelée affaire Bismuth, trouve son origine dans un autre dossier judiciaire qui menace Nicolas Sarkozy, les soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007, qui lui valent une quadruple mise en examen. Et dans ce dossier, les juges avaient décidé en septembre 2013 de placer l'ancien président sur écoute, et ont découvert début 2014 qu'il utilisait une ligne secrète sous Paul Bismuth pour communiquer avec Thierry Herzog. Que les choses donc soient tout à fait claires. Gilles est là également. Bonjour Gilles.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Votre avis. Vous êtes, alors je pose la question directement pour que les choses soient plus claires. Vous êtes un pro-Sarko ou...
Non, je ne suis pas pro-Sarko, mais je serais plutôt droite libérale. D'accord. D'ailleurs, visiblement, c'est pas très très bon en France d'être à droite. C'est mal vu, on va dire. Mais bon, j'assume. Moi, ce procès, il me fait penser, en gros, ça m'évoque deux choses. Justice stalinienne et pêche au chalut.
Pardonnez-moi, j'ai pas compris. Justice stalinienne.
Justice stalinienne et pêche au chalut.
Ah oui, ça, vous y allez fort.
Les juges, ça fait 7 ans qu'ils sont après sa pause. S'ils avaient pu le plomber, ils l'auraient plombé. Il y a clairement un parti pris. meurtrier. Quand on parle d'indépendance et d'impartialité, ça me fait hurler de rire. J'ai appris il y a quelques semaines ou quelques mois qu'en fait, il y avait dans le droit français un truc qui permettait de condamner quelqu'un sur la base d'un simple soupçon. Moi, il me semblait que la justice, c'était des faits. Les soupçons, c'est subjectif. Et là, le juge Tourneur, qui a la réputation d'être une espèce de petit Torquemada en jupe, c'est le cas de le dire, clairement, c'est un monsieur qui fait de la justice une affaire personnelle, ce qui n'est pas censé être son boulot. Alors, quand on parle des écoutes, j'ai même pas en parlé. Les écoutes, pour moi, c'est des méthodes de pays, c'est des méthodes de dictature.
C'est-à-dire que vous souhaitez que personne ne soit jamais écouté en France ?
Mais c'est pas ça, c'est que la justice ne doit pas écouter sur des. Il doit y avoir une décision de justice, c'est-à-dire on ne doit pas pouvoir écouter quelqu'un comme ça, juste comme ça.
Ah ben je pense que tu n'écoutes pas. Non mais attendez. Sans décision d'un juge.
Alors, il me semble que par ailleurs
vous êtes extraordinaire, c'est le juge qui demande.
Les discussions entre un avocat et un client sont confidentielles.
Mais donc, la Cour de cassation a répondu.
Oui, la Cour de cassation, c'est des juges qui jugent d'autres juges. Excusez-moi, mais côté impartialité, on mettrait trois caisses. Hein. Tout ça, ça donne quand même une histoire. Ça donne quand même l'impression qu'on fait sa petite soupe. Alors, tous les juges ne sont sans doute pas à mettre dans le même cas, mais il y a quand même un dernier intervenant qu'on retrouve pratiquement à tous les stades de l'histoire. Est-ce que Mediapart est un auxiliaire de justice ?
Site d'information numérique, tout le monde ne le sait dirigé par Edoui Plenel.
Alors, Mediapart est un site d'information juridique.
Site d'information. Si j'ai dit juridique, c'était une erreur. C'est un site d'information.
Je pourrais dire que Mediapart est un site d'information partial.
Oui, bien sûr, mais comme Le Figaro, comme Libération et comme des journaux d'opinion.
Sauf que Mediapart, on les trouve, chaque fois qu'il y a une histoire de justice, on s'aperçoit qu'il y a une très très grande porosité. J'ai pas.
Mais nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Mais Mediapart a aussi révélé l'affaire avec le ministre de François Hollande. Donc, on ne peut pas dire que ce soit ou à droite ou à gauche.
Mais Mediapart. Attendez, Pascal Praud, le secret de l'instruction, ça vous parle ?
Ah non, mais ça, vous avez parfaitement raison.
Je trouve que je n'ai jamais entendu quelques personnes du système judiciaire, que ce soit des juges, des greffiers ou autres, qui aient été inculpées pour atteinte à la liberté de l'instruction. Et ça, c'est choquant. Un procès, il n'est pas censé se dérouler dans les journaux, sinon c'est pas de la justice.
Vous avez parfaitement raison. Et Nicolas Sarkozy n'est toujours pas arrivé, en tout cas à 13h15. Donc on laisse passer une autre page de pub. Mais vous avez raison, le secret de l'instruction n'est pas gardé en France. C'est incontestable. 13h15, Nicolas Sarkozy n'est toujours pas arrivé au palais de justice de Paris. Et ça va être l'image symbolique forte de ce début d'après-midi.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RTL. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Et Laurent Tessier, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Suivrez-vous le procès de Nicolas Sarkozy? Bien, Norbert, sur la page Facebook de l'émission, parle d'un acharnement contre l'ancien chef de l'État. Laissez-le tranquille, lance aussi Mélo. Et pourtant, je ne suis pas de sa formation politique. William le rappelle, il faut laisser faire la justice. Je n'ai pas accès au dossier, donc je n'ai pas d'avis. La justice fait son travail, rajoute Marie-Yvonne. Et pendant ce temps-là, bon nombre de Français souffrent, écrit Boisin, un non-événement pour Yves. Il y a des choses plus importantes, critique Jean-Marie. Marie se dit dégoûté par les politiciens, il ne m'intéresse plus. Et alors là, ce procès, je m'en moque, conclut Thierry.
Et le procès qui doit donc s'ouvrir à 13h30 et durer jusqu'au 10 décembre, ce qui m'a étonné, 3 semaines pour ce procès, alors que les faits paraissent assez légers finalement à analyser. En tout cas, il reste toutefois soumis aux aléas de l'épidémie de Covid-19 et pourrait être renvoyé à la demande de Gilbert Azibert, qui a 73 ans et pour des raisons médicales. On sera peut-être avec Anne Lehenoff tout à l'heure qui nous en dira davantage. Prenons un jeune étudiant de 22 ans, Mathéo, bonjour.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous, Mathéo.
Merci de m'accueillir sur l'antenne.
En 2007, lorsque le président Sarkozy était élu, c'était donc il y a 13 ans, vous aviez 9 ans.
Oui, c'est ça, exactement. Ouais. J'ai été ce qu'on appelle un Sarko-boy. Hein. Les jeunes avec la mèche derrière sur les meetings. J'ai fait partie des meetings.
Oui, ah ouais, vous êtes un militant sarkozyste.
Non, alors je plaide coupable. J'ai été vraiment. J'ai fait partie de ces cohortes de jeunes qui ont été emportés par la vague dès très tôt. Hein. Moi, j'ai été à fond derrière Sarko. Et comme beaucoup à droite.
Mais pas 9 ans quand même.
Ah, vous savez, la politique, c'est un truc qui pique très tôt. J'y pense pas qu'en me rasant le matin, vous savez, monsieur. Non, mais oui, non, moi, pour le coup, effectivement, c'est un secret de polichinelle pour mon entourage. Non, j'aimais beaucoup Nicolas Sarkozy. Et aujourd'hui, plus du tout.
C'est
un amour de jeunesse. Non, c'est un amour de jeunesse. Vous savez, Nicolas Sarkozy, j'y repense avec un goût aigre-doux, un goût un peu amer en me disant, ah, on aurait pu. Puis au final, ça n'a pas fonctionné entre nous. Mais j'ai toujours une tendresse un peu pour lui. C'est mes premiers amours en politique, c'est Sarkozy. Maintenant, honnêtement, j'ai honnêtement plus de sympathie. Moi, pour avoir été aux Républicains, j'ai vu comment ça se passait à l'intérieur. J'ai pas aimé, bref. Et aujourd'hui, la seule chose qui m'inspire cette affaire, c'est tiens, une de plus. Ce matin, en prenant mon petit déj, je lisais un article du Monde qui disait la compile des dix affaires dans lesquelles Nicolas Sarkozy a été impliqué. Oui, bon bah voilà, là on est proche des présidentielles, ça reste une des dernières figures à droite qui tient à peu près la route, enfin du moins qui peut plus ou moins rassembler. Donc il faut l'abattre, mais c'est un énième coup d'état des juges, c'est juste ça. Là, Sarko, il a le menu golden des implications en justice, il a tout eu, perquisition, mise en examen, garde à vue. Bon, il doit s'en frotter les mains, parce que je pense que pour lui, c'est juste un moyen de s'affranchir encore d'une affaire, de dire, bon bah voilà, je vais régler là-dessus, on me demande des comptes, je vais les donner, et puis basta. Et demain, on n'en parlera plus, j'en suis persuadé.
Donc vous trouvez que ça ne vaut pas la peine de le traduire en justice pour les faits.
Du tout.
Qui lui sont reprochés.
Si, bien sûr que si. Moi, je pense qu'il faut. Bon, il y a une suspicion. Alors, effectivement, la suspicion, elle n'est peut-être pas forcément d'origine honnête. Ça, j'en suis complètement d'accord. Tout ce qu'ont dit les auditeurs avant, je suis d'accord. Mmh. L'affaire, il faut qu'elle ait lieu. Il faut que justice soit prononcée, certainement. Mais c'est l'abattage médiatique qu'il y a derrière. Les journaux qui titrent 10 ans de prison risqués pour le président de la République. Mais n'importe quel journaliste qui a fait des études, un mec qui a son brevet des collèges, le sait très bien que les 10 ans c'est pas possible. Enfin, c'est juste. C'est juste une blague, c'est l'abattage médiatique qu'il y a derrière et tout ce qu'on veut toujours pour en remettre une couche sur la faute à Sarko. La faute à Sarko, ça pourrait être une excellente comédie française, vous savez. C'est qui ? C'est la faute à qui ? C'est la faute à Sarko. Bon, bah ça marche bien, ça vend, et puis on en parlera plus demain, j'en suis persuadé.
Ah, je sais pas si on en reparlera pas demain, précisément. En tout cas, merci Mathéo pour ces témoignages. Thierry est là, Thierry qui habite Washington et régulièrement au téléphone. La dernière fois que je vous ai eu, vous étiez en France.
Oui, je suis encore. Bonjour Pascal.
Ah oui, vous êtes de Washington, mais en fait, vous vivez en France désormais. Vous ne rentrez plus au pays.
Si, bien sûr. Mais avec le Covid, ça rend les choses un petit peu compliquées en ce moment. Donc, je devrais y retourner à Noël, si tout va bien.
Mais comment votre entreprise marche-t-elle alors ? Elle marche sans vous, Washington ?
Non, pas du tout. Elle marche avec le télétravail, elle marche avec des collaborateurs impliqués, elle marche avec des clients qui sont compréhensifs des turpitudes du moment. Donc, elle marche plutôt bien.
Nicolas Sarkozy est en train d'arriver. Nicolas Sarkozy est arrivé à l'instant même. Image furtive, quelques secondes, et il s'est engouffré dans une salle, et on l'a vu à peine 4 secondes devant une foule de caméras et de journalistes qui étaient présents. Donc, ce sera l'image, évidemment, de la journée, en tout cas en politique. Pardonnez-moi, Thierry, je vous ai coupé.
Je vous en prie. Moi, je voulais simplement dire que répondre à la question, à savoir est-ce qu'il est important de suivre le procès de Nicolas Sarkozy, la réponse est absolument oui. J'étais en 2007 à l'origine de la co-création de son comité de soutien à Washington, convaincu qu'il allait faire bouger les lignes en France. Et je n'ai pas renouvelé l'expérience avec mes amis en 2012 à la lumière de deux choses, certaines promesses de campagne qui n'ont pas été réalisées, et surtout le battage médiatique qui nous mettait le doute quant à sa potentielle culpabilité sur des affaires dont on sait que maintenant que pour certaines elles étaient bidons, ou en tout cas il a obtenu des non-lieux. Donc je crois que si la démocratie, on s'est moqué de la démocratie américaine à l'occasion de l'élection récente, je crois qu'il faut que la lumière soit faite quant à ce qui a pu se passer autour de Nicolas Sarkozy, candidat à un deuxième mandat, de façon à ce que tous ceux qui, comme moi, se sont sentis un moment dans le doute par rapport à sa culpabilité, puissions avoir des réponses claires et de savoir si, oui ou non, la manipulation de l'opinion publique a été institutionnalisée par la justice française.
Ben, c'est une question en tout cas qui revient régulièrement dans ce rapport entre les juges et les politiques, et notamment entre les juges et Nicolas Sarkozy, et ça, ça existe. Alors les, pour contredire ce que vous dites là, c'est de souligner que les faits sont têtus et que les juges ne font que leur métier. C'est vrai aussi dans l'affaire libyenne. On remarquera que pour le moment, Nicolas Sarkozy a parfois été jugé et pour le moment, il n'a toujours obtenu que des non-lieux. Je pense à l'affaire Bettencourt.
Bien sûr. Donc, et je crois que vous avez raison. La question du jour est vraiment la meilleure qu'il soit. Mmh. Est-ce qu'il faut suivre le procès? La réponse est oui. Je crois que pour quiconque a une conscience politique, il faut savoir ce qui a pu se passer, s'il est coupable, s'il n'est pas coupable. Et de là, chacun ensuite tirera ses conclusions, y compris pour lui d'ailleurs, dans son avenir politique. Parce que même s'il dit qu'il ne compte pas s'en présenter, on n'imagine pas un instant que Nicolas Sarkozy ne soit pas présent dans l'espace politique français.
Bah, surtout à droite, où effectivement, oui, aujourd'hui... Les leaders manquent manifestement à droite et il fait figure régulièrement de recours pour même les plus jeunes qui viennent lui demander conseil. Et il est une autorité, une voix qui compte à droite. Merci beaucoup Thierry.
Avec
merci.
Plaisir.
Il est 13h25. Je vous propose de faire quand même une parenthèse, qu'on ne va pas parler que de l'affaire Sarko. Demain soir, Emmanuel Macron va parler. Le paradoxe, c'est qu'on sait déjà quasiment tout ce qu'il va dire. Rose est avec nous. Qu'attendez-vous néanmoins de la parole du chef de l'État? Bonjour Rose.
Bonjour. Écoutez, moi je vais peut-être aller un petit peu à contre-courant de ce qu'on peut entendre ou ce qui peut être souhaité par les commerçants. Et pourtant, donc vous le savez, je suis commerçante. Hein, mais comment ? Je souhaite que le président Macron annonce la réouverture des commerces pour le premier. Et je vais vous expliquer pourquoi. Hein, parce que moi je trouverais inadmissible qu'un président, et ça serait un gros danger pour la démocratie en France, décide de suivre les préconisations, limite chantage, de tous ces grands groupes de distribution. Puisque, en effet, on a pu voir en bandeau sur toutes les chaînes de télé ou entendre que Carrefour, Auchan, Casino, Cdiscount, Amazon étaient d'accord de reporter le Black Friday à condition que les petits commerçants ouvrent le 27 et le 28. Les petits commerçants, ils n'en ont rien à cirer. Hein. Ils veulent pourquoi ? Parce que ça leur permettrait, eux, d'ouvrir leurs rayons non essentiels, et donc les jouets, les décorations de Noël, les gens se précipiteraient. De toute façon, les petits commerçants, pour moi, ils ne tireraient pas leur épingle du jeu. Mais ça serait inadmissible de la part d'un président de se plier devant ces groupes-là.
Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Parce qu'a priori, les commerces vont ouvrir même samedi prochain.
Mais je suis d'accord.
Avant même le 1er décembre, a priori, les petits commerces vont ouvrir là.
Eh ben, moi, je trouve ça inadmissible. Si Monsieur Macron...
Mais pourquoi ? Vous ne voulez pas que les commerçants rouvrent samedi prochain ?
Non.
Mais pourquoi ?
Mais je viens de vous l'expliquer.
Je vais vous l'expliquer
parce que j'estime que Monsieur Macron, le président Macron, n'a pas à céder à ce chantage de ces groupes qui ont bien dit nous, on veut bien repousser le Black Friday à condition que le gouvernement décide de faire l'ouverture des commerces le 27 ou le 28.
Est-ce
que c'est à eux de dicter la loi au président et au gouvernement?
Mais je ne comprends pas pourquoi les grands groupes voudraient que les petits commerces rouvrent le samedi 27.
C'est ce qu'ils ont dit, c'est ce que vous affichez sur toutes vos...
Je comprends pas le raisonnement pour tout vous dire.
Ça voudrait dire qu'à la limite, ce pays est gouverné par ces grands groupes, et si M. Macron leur donnait ce qu'ils veulent.
En tout cas, l'important, c'est que les petits commerces rouvrent. C'est ça qui est important.
Au-dessus de ça, il y a la sauvegarde de la démocratie, d'avoir un président qui est capable de prendre ses décisions tout seul et de ne pas se plier à ce que veulent ces groupes de distribution et Amazon.
Position telle que vous la dites là, vous êtes sûr de la position des grands groupes sur les commerçants?
Vous-même, sur CNews, vous l'avez montré, affiché, etc. Auchan, Carrefour, Géant, Cdiscount, et de mémoire, c'est vraiment ceux-là, je crois même qu'il y en a un en plus, et Amazon, hein, sont d'accord de reculer le Black Friday si les petits commerçants, ça veut dire si le gouvernement et le président cèdent, puisque de toute façon...
Mais pourquoi céder ? Au contraire, c'est les aider, c'est ça que je ne saisis pas. Mais c'est pas grave, on m'a marqué une pause, et puis on est là pour échanger, discuter, même si nous ne sommes pas d'accord, et même si... Nous n'avons pas les mêmes avis. J'ai toujours pas salué Greg Cara Denis, je le saluerai après la pub, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Alors Rose était avec nous, maintenant c'est Mario qui va parler, Mario, de ce qu'attend le président, de ce qu'il attend du président de la République. Bonjour.
Bonjour Monsieur Pro.
Et merci d'être avec nous.
Oui, alors moi je voudrais reprendre un peu le thème du sport dont on a entendu parler dans le journal par rapport à nos jeunes qui ne pratiquent pas le sport et à ce titre-là je voudrais en profiter donc pour demander au président de se repencher un peu sur les directives concernant l'organisation.
Mario, on va essayer de rétablir une écoute meilleure, parce que la liaison n'est pas extraordinaire. Donc Régis, sur le même thème, chef d'entreprise, agence événementielle, c'est un drame l'événementiel. On le dit à chaque fois, c'est un drame absolu. Bonjour Régis.
Bonjour Pascal.
Puisqu'il n'y a plus d'événements aujourd'hui, puisque tout est fermé, tout est à l'arrêt.
Malheureusement, et donc on écoutera religieusement demain notre président.
Qu'est-ce que vous attendez?
Rien.
Comme ça, vous serez pas déçu.
Nous, on sera pas déçu. Moi, j'attends rien, donc, de toute façon. Oui, et de savoir quand est-ce que je vais pouvoir y faire mes petits achats de Noël, qui seront réduits, bien entendu, cette année, faute de budget, bien sûr. Donc, ça sera revu à la baisse. Mais moi, j'ai envie d'aller voir mes commerçants. J'ai envie d'échanger avec eux. J'ai envie d'essayer mes vêtements. J'ai pas envie d'acheter sur Internet, moi. Moi, je veux aller voir mes commerçants.
Ben j'entends bien, mais là vous allez pouvoir le faire dès samedi prochain, a priori.
A priori, voilà. Alors, je vais quand même écouter ce soir, parce que voilà, je veux savoir comment on va faire. Nous on organise sur Rouen le 25 avec les commerçants de Rouen, justement Rouen ma ville. On fait une opération avec mes commerçants non essentiels. Voilà, donc toute la journée les commerçants sur Rouen seront ouverts avec du click and collect. On va monter un podium sur la place de l'hôtel de la cathédrale où on va faire des interviews. On va rendre festif ce moment-là. Avec les restaurants, avec les bars. Les bars, tous les restaurants sont ouverts pour faire des plats à emporter. On va faire vivre notre ville, quoi, le 25, quoi, en espérant que M. Macron ne nous annonce pas le 24 au soir des nouvelles un peu plus compliquées que celles qu'on pense déjà avoir cru comprendre, de toute façon, pour l'instant.
C'est-à-dire que les grandes lignes, visiblement, on les sait. Bar, restaurant, ce ne sera pas ouvert. Ce qu'on ne sait pas, c'est s'il va dire demain quand les bars et les restaurants seront rouverts. Est-ce qu'il va prendre, entre guillemets, ce risque-là de dire ce sera peut-être le 15 janvier ou le 1er février. On ne sait pas non plus, il y avait un point d'interrogation sur les stations de ski.
Je ne pense pas.
Vous pensez pas quoi que ce sera
rouvert? Ils vont donner demain. Voilà.
Vous pensez que demain, a priori, faut être cohérent. On nous dit on a besoin de cap, on a besoin de clarté et on a besoin de savoir où on va. Si demain soir, le président de la République n'est pas capable de dire aux restaurateurs et à ceux qui travaillent dans des bars, messieurs, c'est encore difficile, mais le 15 janvier, si évidemment l'épidémie continue de baisser, on rouvre. Si on n'est pas capable de dire ça à un mois, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est désespérant. En prenant les précautions oratoires, si effectivement le virus continue de moins circuler en France, pourquoi pas ? Mais t'es obligé quand même de donner des informations et de rassurer un poil les uns et les autres. Autrement, ça sert à rien d'avoir des gens qui dirigent.
Mais on est bien d'accord. Mais j'espère me tromper. Mais pour moi, demain, il ne donnera pas de date. Ils ne donneront pas de date encore. On envisage.
C'est pas mal déjà on envisage. Oui. Et je pense qu'il y a toujours des précautions oratoires et chacun peut le comprendre. Mais en revanche, si aucune date n'est donnée demain, c'est à désespérer.
Mais est-ce qu'un restaurateur peut rouvrir comme ça du jour au lendemain?
Bah justement.
C'est pour ça qu'il faut qu'il sache. Mais oui, mais c'est pas avec une date fixe et précise. Voilà, on ouvre le 15 janvier. Ok. Mais pas on envisage vous faire ouvrir le 15 janvier.
Moi, je me satisferais d'un on envisage.
Oui, bah, je pense pas que les commerçants maintenant, les bars et restaurants puissent se contenter du mot envisagé. Mais je pense pas.
Quand tu es un politique, tu prends des précautions. Je n'en disconviens pas. Je sais bien qu'il peut se passer au mois de décembre quelque chose que par définition on n'a pas prévu ici. Donc une reprise, que sais-je, de l'épidémie, mais a priori on est sur une baisse. Le R est en dessous de 1 et le chiffre le plus important c'est le R, puisque quand il est en dessous de 1, ça veut dire qu'une personne ne contamine qu'une seule personne.
Au-dessus
de 3.
Pascal, on va voir comment ils vont nous déconfiner, comment ça va être.
Justement, on va le voir demain.
J'imagine qu'ils vont nous laisser un couvre-feu. Je le vois, ça.
Je pense que ce couvre-feu pourrait remplacer le confinement. Mais de toute façon, le couvre-feu, comme tout est fermé.
De toute façon,
que tu vas faire dehors par moins 10 degrés. Quoi.
Oh, il y en a qui trouveront mieux de l'occupation.
Oui, je devine, Régis, ce à quoi vous faites allusion. Bon, on va marquer une pause en tout cas, et on pense à nos amis restaurateurs et les bars. Effectivement, c'est un secteur qui est sinistré. Monsieur Caranoni, est-ce que vous avez passé un bon week-end?
Oui, au coin du feu.
Ah ben vous avez de la chance, vous avez une cheminée chez vous.
Oui, absolument.
Mais vous habitez dans un appartement?
J'habite dans un petit appartement parisien qui a la chance d'avoir une cheminée qui fonctionne.
Mais on n'a pas le droit de faire du feu, avait demandé Ségolène Royal là, il y a quelques années à cause des particules fines.
Non, mais c'était dans ma télé alors.
Bon, ben vous dites n'importe quoi. Et vous n'avez pas de chanson pour nous égayer un peu ce lundi sur les commerces? Vous n'avez pas trouvé une petite chanson?
Mais si, je vais vous trouver ça, bien sûr.
À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et à 13h40, l'ami Laurent Tessier va nous annoncer ce qu'on écoutera entre 14h et 14h30.
Nicolas Sarkozy est arrivé un peu avant 13h30 au tribunal correctionnel de Paris. Il comparaît à partir d'aujourd'hui dans l'affaire dite des écoutes. L'ex-président est jugé pour corruption, un procès sans précédent sous la Ve République. Alors, que reproche-t-on exactement à l'ancien chef de l'État? Retour en 2013-2014.
À l'époque, l'ancien président se méfie de ces messieurs qui écoutent. Son avocat lui fournit donc un autre téléphone portable acheté sous le nom de Paul Bismuth pour pouvoir discuter en toute sérénité. Mais ce que ne sait pas Nicolas Sarkozy, c'est que très vite, cette ligne secrète va également être sur écoute. Les enquêteurs découvrent que l'ancien président cherche à obtenir des informations secrètes sur une procédure en cours, la procédure Bettencourt.
L'avocat de Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog, est poursuivi également dans cette affaire, tout comme l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert. L'ancien président promet d'être combatif, parle d'un scandale qui restera dans les annales. Il s'est défendu le 13 novembre dernier chez nos confrères de BFM.
Je sais maintenant qu'il suffit pas d'être innocent pour ne pas avoir d'ennui. Que j'ai un téléphone pour parler avec mon avocat ne fait pas de moi un délinquant. Parce que la vraie voyoucratie, madame, c'est de mettre sous écoute les plus grands avocats de Paris pour se payer Sarkozy.
Alors, nous vous posons cette question depuis le début de l'émission. Suivrez-vous le procès avec nous en studio à 14h, le politologue Jean Garrigue, président du comité d'histoire parlementaire et politique.
Et nous sommes avec Patrick. Bonjour Patrick.
Oui, bonjour.
On va annoncer la couleur. Vous êtes un pro-sarkoziste.
Oui, j'ai été un pro-chiracien, j'ai été un pro-sarkoziste. On va dire tout simplement que je suis à la base avec des pensées républicaines. Moi, je voulais intervenir pour deux ou trois choses. Alors, est-ce que l'affaire est choquante? Oui, elle est choquante à plusieurs titres pour moi. La première, qu'on puisse poursuivre un ancien président de la République et qu'on puisse le mettre sur écoute avec son avocat. Toute personne a le droit à la confidentialité avec son avocat, y compris M. Sarkozy. Ensuite, est-ce qu'il y a un acharnement? Visiblement, vu le nombre d'affaires où M. Sarkozy a été cité et jamais condamné, il y a quand même quelque part une forme d'acharnement. La troisième chose qui choque...
Ce qui montre que, d'ailleurs que la justice fonctionne bien, s'il a été en même temps... s'il n'a pas été condamné.
Oui, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça un bon fonctionnement. Mais enfin, bon, la troisième chose, c'est la durée des débats. 3 semaines pour une affaire dont sur le fond, on s'en fout complètement, mais complètement, qu'il ait été, qu'il ait cherché à avoir des informations. Je pense que tout à chacun, si on avait la possibilité d'avoir des infos, ne serait-ce qu'avec le président de la Française de jeu pour connaître les numéros gagnants de l'Euro Million, croyez-moi qu'on le ferait. Enfin, je veux dire, tout à chacun va jouer de sa sphère d'influence pour obtenir des informations.
Mais bon, c'est pas exactement ça qu'on lui reproche, mais bon, peu importe.
Non, mais trois semaines de débat pour ce genre d'affaires, alors qu'on va prendre dans une cour d'assises traditionnelle une semaine pour envoyer quelqu'un pour juger coupable ou pas coupable d'un assassinat et éventuellement l'envoyer 15 ans, 20 ans ou au-delà en prison, je pense que c'est...
Alors ça, c'est une bonne remarque, Patrick. Là, vous avez raison, moi j'ai été surpris aussi. On va faire trois semaines... on va passer trois semaines à juger Nicolas Sarkozy sur une affaire effectivement qui paraît pas essentielle à la République. Et comme vous, les cours d'assises statuent parfois en deux jours, trois jours. La semaine dernière, c'était cinq et c'était tout à fait exceptionnel, et même six avec le procès d'Aval. Mais ça, c'est une bonne remarque, je trouve.
Voilà. Et pour finir, bon ben, je pense que d'autres journalistes l'avaient dénoncé. Parfois, même sur votre plateau sur CSTAR. Enfin, sur
peu importe, on est sur RTL en ce moment.
Voilà, oui, même sur RTL, c'est la justice des juges, enfin l'état des juges aujourd'hui. Un homme politique, quel qu'il soit, aujourd'hui en charge des dossiers Covid, les décisions parfois ne sont pas prises parce qu'ils ont peur aujourd'hui de se retrouver dans six mois, dans un an ou dans quelques années plus tard, retrouver devant...
C'est vrai que c'est aussi un des sujets, le pouvoir des juges dont on parle régulièrement, mais en même temps, personne n'est au-dessus des lois. C'est pour ça que c'est un sujet assez complexe, mais à gérer.
Non mais aujourd'hui, il vaut mieux être juge d'instruction que homme politique, hein, croyez-moi.
Ben c'est aussi un risque. Alors tout ce que ça, vous avez encore raison, Patrick. C'est-à-dire que cette judiciarisation de la vie politique aura peut-être une conséquence. Beaucoup de gens vont peut-être se détourner de la vie politique. Beaucoup de gens de qualité, parce qu'ils ne veulent pas terminer devant un juge. Et ça s'entend. Et ça s'entend effectivement. Aujourd'hui, tu te dis, je vais peut-être pas faire de la politique parce que je vais terminer au tribunal. Bien sûr. Vous avez parfaitement raison. Très bonne remarque encore, Patrick.
Et de la politique locale. Aujourd'hui,
bien sûr,
être maire, c'est prendre des responsabilités.
Ah, mais je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Vaut mieux être journaliste, hein. Parce que tu as une libre parole, mais tu ne dois pas être traduit, a priori, devant un tribunal. Vous avez parfaitement raison. Parfaitement raison. Et c'est un des soucis. Bah, écoutez, Patrick, j'étais d'accord avec vous.
Merci.
Sur votre avis. Mais je suis persuadé que tous ceux qui vous ont écouté sont d'accord avec vous. Parce qu'effectivement, alors je ne sais pas la solution d'ailleurs, parce qu'effectivement, il faut pouvoir poursuivre, nul ne doit échapper à la loi, bien sûr. Mais est-ce qu'il faut poursuivre les hommes politiques dans le cadre de leur action politique, entendons-nous bien, dans le cadre de leur décision politique? Si effectivement un homme politique tue quelqu'un ou a un accident de voiture et tue quelqu'un, bien évidemment, il n'y a pas de souci, il faut le poursuivre. Mais est-ce qu'il doit être poursuivi dans le cadre de son action politique par les décisions politiques qu'il a prises? Ça, c'est une vraie et bonne question. Patrick, merci. Et
pour finir, j'ai jamais entendu parler de procès, même à posthume, des écoutes de M. Mitterrand.
Des procès posthumes. Des procès posthumes n'existent pas, cher. Cher Patrick. A priori, quand on est mort, au moins, on ne vient plus te chercher.
Mais ce qui était étonnant, c'est que, y compris monsieur le directeur de Mediapart, cherchais son nom.
Monsieur Plaisel,
tout le monde devait être au courant de la vie de François Mitterrand, de ses équipes, y compris de son vivant, hein, bien sûr, il écoutait bien sûr de son vivant, et ça avait l'air d'une...
Non, mais Monsieur Plaisel, on pourrait essayer de lui faire le procès lorsqu'il était journaliste du Monde, de la couverture qu'il avait proposée de Dominique Baudis, hein. Vous savez, chacun ses casseroles, si vous voulez. Mais les journalistes, eux, ils échappent, quand ils ont le droit de dire des bêtises. Donc il n'y a pas de procès contre les journalistes.
Bien.
Merci Patrick de votre témoignage. Et nous allons pouvoir enchaîner dans quelques secondes. Vous avez trouvé une chanson ou pas, Greg?
Je vous ai dépoussiéré une petite musique de Micheline Day.
D-A-Y,
absolument.
Et on peut l'écouter
bien
ou après
sûr,
la
pub? Il y a du soleil dans la boutique en 1937.
Ah bah ça devrait rajeunir.
Dans la boutique, toute triste et toute grise.
C'est bien.
Vous
c'est
les
sympa, c'est entraînant.
Je pensais que ça vous ferait plaisir.
Micheline Day. Il y a des gens, il y a l'autre jour, on a eu Berthe Silva. Et là, c'est Micheline Day. D-A-Y. Ça m'avait échappé, Micheline Day.
Écoutez, voilà, je suis heureux de vous avoir.
À tout de suite.
Il y a du soleil.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et nous sommes avec Stéphanie pour revenir sur ce que nous attendons d'Emmanuel Macron demain, puisqu'on va reparler de Nicolas Sarkozy entre 14h et 14h30. Stéphanie qui habite Orléans, qui est assistante de direction. Qu'est-ce que vous attendez ? Bonjour Stéphanie.
Oui, bonjour Monsieur Pro. Merci d'avoir pris mon appel. Donc ce que je disais à vos collaborateurs, c'est que moi j'attends le sport pour les enfants. Quoi. C'est pas possible que les enfants puissent pas faire de sport. Voilà, ils sont quand même confinés, ils sont 30 dans par classe et on n'est pas capable d'ouvrir un gymnase pour faire du sport. Donc moi, je veux qu'ils ouvrent les salles de sport.
Voilà, vous avez tellement raison, Stéphanie. Et ça montre aussi la place du sport en France. Vous savez combien de gens sont licenciés en France d'une fédération, toutes disciplines confondues ? 16,5 millions de personnes. 16,5 millions de personnes.
Ah oui, non, mais c'est...
Et l'autre jour, il y a eu une réunion à l'Élysée et on en a quasiment... pas parler. Les journalistes en ont finalement peu parlé, ce qui montre la place du sport en France. Alors que, évidemment, les commerçants, à juste titre, on en parle, les bars, les restaurants, mais le sport, on en parle peu ou pas. Et là où vous avez raison, c'est que alors les mineurs vont pouvoir reprendre le sport à partir de 1er décembre. Hein, c'est l'annonce de la semaine dernière, de cette réunion, précisément.
Oui, c'est ça, oui. C'est ce qu'on... Mais les activités extrascolaires, enfin, mon fils fait du théâtre, il ne peut pas faire de théâtre.
Bah oui,
la musique, le tennis, ils sont 4-5 en cours et là, ils sont 30 par classe. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment...
Mais vous avez raison, on ne peut pas jouer sur un cours de tennis qui fait 600 mètres carrés alors qu'on est deux. Mais... Enfin, il y a un moment, il faut arrêter de faire n'importe quoi.
On sacrifie une génération pour moi, on sacrifie une génération. Enfin, je veux dire, mon fils, il débute le tennis, il sera jamais Nadal. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, ça fait un an qu'on fait plus de ça. Non, enfin voilà.
Mais moi, je suis d'accord avec vous. Ça me rend, j'allais dire fou de voir tous ces jeunes. On met les gosses devant les écrans du vendredi soir jusqu'au lundi matin.
C'est ça. Moi, je suis.
Alors qu'il n'y a rien de mieux pour développer la santé intellectuelle, mentale, la solidarité, l'esprit de compétition, etc. Le sport, faites du sport. Eh bien, on les vire du sport. Enfin, c'est fou quand même.
À l'école, ils ne font pas de sport du lundi au vendredi.
Là, je sais,
de 8h30 à 16h30.
Mais ça en dit beaucoup, hein. Franchement, ça en dit beaucoup sur notre société. Aux États-Unis, en Allemagne, évidemment, la place du sport n'est pas la même. Bien sûr que ça en dit beaucoup. Il ne faut pas s'étonner après qu'aux Jeux Olympiques, on n'est pas toujours des champions et qu'on n'est pas une nation de champions. C'est très intéressant ce qui s'est passé avec le sport. Vous avez raison, Stéphanie.
Voilà,
vous serez devant votre poste demain ?
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, je serai devant mon poste. Voilà ce que j'attends. Après, on verra, on suivra la suite des événements. Qu'est-ce que vous voulez ? De toute façon, on ne peut pas trop décider. C'est comme ça. Mais bon, le sport, voilà. Moi, c'était mon point de vue aujourd'hui que je voulais faire partager.
Le procès s'est ouvert, en tout cas. Merci Stéphanie. Le procès s'est ouvert pour corruption, vous le savez, de l'ancien président Nicolas Sarkozy. Il est ouvert à l'heure à laquelle je vous parle. 13h53, un mot peut-être de Sarkozy, précisément Sarkozy, ce procès qui vient de s'ouvrir. Nous sommes avec Michel. Bonjour Michel, qui habite dans le Vaucluse.
Bonjour Pascal.
Oui, merci d'être avec nous.
Donc, c'est moi qui me remercie. Déjà, de pouvoir parler, c'est quand même déjà encore une forme de liberté.
Oui, profitons-en, on ne sait jamais ce qui peut arriver.
Tout à fait. Donc, je n'avais pas voté pour M. Sarkozy, donc je tiens à le dire, parce que j'étais pratiquement socialiste sans être encarté. Mais bon, j'avais voté déjà pour M. François Hollande. Je pense qu'il y a un acharnement, effectivement, à son encontre. Certainement qu'il y a des raisons. Après, ça dépasse mes compétences intellectuelles. Mais on a quand même... faut pas oublier que M. François Mitterrand, sous son septennat, quand même, ses deux septennats, son meilleur ami s'est suicidé à l'Élysée avec un 357 Magnum. Personne n'a rien entendu. Je crois que c'était Monsieur, si ma mémoire est bonne, François de Grosou.
François de Grosou,
il me semble, c'est ça.
Dans une des ailes du château.
C'est ça.
Et donc, c'est Michel Charras qui l'avait découvert.
Voilà, d'accord.
Mais bon, il s'est suicidé. Vous pouvez pas jeter la... Faut faire attention, la suspicion.
Je suis d'accord, Monsieur Pro, mais vous savez ce que c'est, le bruit d'un 357 Magnum, quand vous êtes entouré de gardes du corps, que l'Élysée est quand même gardée par des gens compétents. Enfin, j'espère. Donc, enfin, je ne sais pas si vous savez ce que c'est une détonation de 357 magnum, mais ça fait du bruit. Après, son premier ministre s'est quand même suicidé avec l'arme de son garde du corps, hein, monsieur Bérégovoy, je crois. Hein.
Je suis d'accord là, là aussi, mais vous, c'est voilà. Pas de la, on peut pas établir un lien de cause à effet entre la présidence de la République et ces deux morts là.
Non, je suis d'accord.
Bah oui, vous êtes d'accord, mais vous le dites.
Oui, on peut se poser quand même des questions parce que
c'est des cas différents, c'est des cas des personnes qui étaient.
Non, mais je suis d'accord. Enfin, si vous.
C'est pas des affaires criminelles. On sait à peu près comment ça s'est passé aujourd'hui.
Si on veut, d'accord. Plus il y avait des suicides. Plus sa maîtresse qui est entretenue aux frais quand même de l'Élysée, plus sa fille, enfin protégée par les fonctionnaires de l'État. Enfin,
alors, d'abord,
son fils avec les trafics d'armes. Non, mais je veux dire, vous voyez, quand on compare, pourtant j'ai voté pour lui quand il a été élu, je pleurais pour vous dire, moi dans ces années-là, en 80.
Ne dites pas que sa maîtresse, d'ailleurs, qui est Anne Pinjot, qui est une femme vraiment remarquable, qui n'a jamais dit un mot sur François Mitterrand. Je ne peux pas vous laisser dire qu'elle est entretenue par la République.
Non, je ne veux pas critiquer cette femme-là, je ne la connais pas, je ne me permettrai pas.
Vous ne voulez jamais, mais vous balancez des plombs.
Non, je ne balance pas, mais j'ai des choses qui ont existé. Et si vous voulez, il n'y a pas eu de procès autant. Enfin, je veux dire, parce qu'en plus, j'ai voté pour lui, donc je peux me permettre. On nous a quand même supprimé le droit de vote, le référendum sur la peine de mort, on ne l'a pas eu. Après, chacun pense ce qu'il veut, mais quand je vois tout ce qui se passe à l'heure actuelle...
Il s'était prononcé très clairement, alors je me fais l'avocat du diable surtout, il s'était prononcé très clairement durant la campagne électorale, donc on savait pourquoi
on
votait.
Mais pour un socialiste, je pense qu'on devrait quand même respecter un peu le peuple. Parce que le peuple, il est ce qu'il est. Alors, bien sûr qu'il a des défauts. Mais je veux dire qu'à un moment, le référendum sur des dossiers importants, il est quand même important de consulter le peuple. Enfin, moi, c'est ce que je pensais. C'est pour ça que je suis déçu. Mais bon, ça ne me regarde que moi, hein, personnellement. Mais j'estime
Alors, vous votez pour qui aujourd'hui, Michel ?
Pour l'instant, je me pose des grosses questions. Parce que j'ai
La dernière fois, vous avez voté pour qui ?
Moi, j'avais voté pour Jean Lassalle. Pour vous dire, ça va peut-être.
Oui, mais alors, ça ne fait pas rien de plus. Mais au deuxième tour.
Au deuxième tour, que je dise pas de bêtises, j'avais voté malheureusement pour Monsieur Macron, quoi.
Vous regrettez, c'est-à-dire que vous, aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, dans un duel Le Pen-Macron, vous voteriez,
Monsieur, j'espère
vous voteriez, plus exactement, vous voteriez Marine Le Pen?
J'espère que, parce qu'à mon avis, malheureusement, elle n'a pas les compétences. Mais franchement, Monsieur Macron, je ne voterai pas pour lui avec tout ce qui se passe avec le Covid. On ferme les petits commerces, je suis un ancien petit commerçant. Je peux vous dire que c'est une honte de fermer les bars, les petits restaurants. Alors, je veux dire que c'est vrai que dans les grandes villes, il y a toute une histoire, mais je veux dire qu'il y a quand même des trucs dans les petits villages de France, dans les fins fonds des campagnes. On est en train de tuer tout le monde, quoi. Je veux dire, le résultat de Monsieur Macron, excusez-moi, mais là, à l'heure actuelle, franchement, moi, j'ai un peu honte. J'ai l'impression qu'on est dans une dictature. Regardez les gens en prison, ils ont une droit à une heure de sortie par jour. Nous, on en est là maintenant. Il faut des autorisations pour sortir une heure par jour. Non, mais il y a de quoi se marrer, quoi. Alors, surtout que les frontières sont pas fermées de l'Europe. Il y a comme des gens qui circulent en Europe. Et je vous dis pas tous les trafics, ce qui se passe en Europe. Mais vous le savez aussi bien que moi, de toute façon.
Michel, comme je vous ai beaucoup apporté la contradiction dans ce petit échange.
Non, mais vous avez le droit. Il n'y a pas de souci.
Je ne vous ai pas non plus repris sur le mot dictature. Convenez que.
C'est peut-être le mot est un peu fort.
Je reconnais,
c'est vrai. Parce qu'on est comme dans un beau pays, mais gouverné par des gens incompétents. Vous avez raison.
Ça, c'est autre chose.
On est bien d'accord.
Ça, c'est autre chose. Et là-dessus, en tout cas, je ne sais pas s'ils sont incompétents, mais ils prennent parfois pas les bonnes décisions, même si c'est sans doute très difficile aussi d'être à leur place. Mais en même temps, personne ne les a obligés d'être là où ils sont. Voilà ce que l'on pouvait dire. Aude Vernuccio vient d'arriver. Il est 13h58. Le flash dans une seconde.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
À la seconde près, 14h. Et au flash, Aude Vernuccio.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Image frappante du jour, l'arrivée de Nicolas Sarkozy au tribunal correctionnel de Paris. L'ancien chef de l'État comparaît pour corruption dans l'affaire des écoutes. Il est soupçonné d'avoir tenté d'obtenir un poste à un ancien haut magistrat en échange d'informations sur l'affaire Bettencourt. Son avocat aurait servi d'intermédiaire. Les enquêteurs ont trouvé des échanges via un téléphone secret au nom de Paul Bismuth. Quelle perspective pour les fêtes de fin d'année ? Emmanuel Macron tiendra un conseil de défense demain matin avant une allocution le soir à 20h. Le président doit fixer un cap, une stratégie pour les prochains mois. Pas de déconfinement, mais des assouplissements en 3 étapes, avance le porte-parole du gouvernement. L'attestation de déplacement dérogatoire pourrait rester en vigueur. L'épidémie en France poursuit sa décrue. Environ 13 000 cas de coronavirus hier au lieu de 18 000 la veille. Mais la tension reste élevée dans les hôpitaux. Encore 214 décès à déplorer en 24 heures. Et de 3, après Pfizer et Moderna, le laboratoire AstraZeneca affirme que son candidat vaccin est efficace à 70%. On rappelle qu'il est toujours en phase de test. Les marchés financiers optimistes s'envolent. Plus 0,91% pour le CAC 40 à l'ouverture. Danone, plombé par la pandémie, va supprimer jusqu'à 2000 postes administratifs, dont 4 à 500 en France. Sont concernés les cadres principalement du groupe agroalimentaire. Note de frais, repas, accident du travail, syndicats et patronat tentent de négocier un accord pour encadrer le télétravail. Nouvelle réunion prévue ce lundi. Et puis un nouveau projet de rénovation de la gare du Nord. Le bâtiment sera moins haut avec moins de commerce. Il sera achevé après les Jeux Olympiques de 2024. Accord entre la mairie de Paris et la SNCF après des mois de controverses. La météo, un pays coupé en deux ce lundi. Au nord, le ciel sera couvert avec de la brume et des averses. Des éclaircies attendues au fil de la journée de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais et sur les Vosges. Au sud de la Loire, temps sec et plutôt ensoleillé. Température comptée de 7 à 15 degrés en moyenne et jusqu'à 17 degrés pour la maximale. Ce sera au Pays Basque.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Et merci grandement à Aude Vernuccio, costume sombre, chemise blanche, cravate noire, un masque bleu ciel sur le visage. Nicolas Sarkozy est arrivé au palais de justice de Paris, Laurent Tessier.
Et c'est le sujet qui vous fait réagir depuis le début de l'émission.
C'est un procès historique qui s'ouvre aujourd'hui pour la première fois. Un ancien président se retrouve au tribunal.
C'est la première fois qu'un ancien président est jugé pour corruption. Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, ramené au rang de simple prévenu.
Le procès s'est ouvert il y a quelques minutes. Nicolas Sarkozy était arrivé à 13h20 au tribunal correctionnel de Paris. Il comparaît à partir d'aujourd'hui dans l'affaire dite des écoutes. Un procès sans précédent sous la Ve République. Jacques Chirac avait été jugé pour les emplois fictifs de la ville de Paris, mais à distance, en raison de son état de santé. Alors que reproche-t-on exactement à Nicolas Sarkozy? Retour en 2013-2014.
À l'époque, l'ancien président se méfie de ces messieurs qui écoutent. Son avocat lui fournit donc un autre téléphone portable acheté sous le nom de Paul Bismuth pour pouvoir discuter en toute sérénité. Mais ce que ne sait pas Nicolas Sarkozy, c'est que très vite, cette ligne secrète va également être sur écoute. Les enquêteurs découvrent que l'ancien président cherche à obtenir des informations secrètes sur une procédure en cours, la procédure Bettencourt.
L'avocat de Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog, est poursuivi également dans cette affaire, tout comme l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert, car l'histoire ne s'arrête pas là. Un pacte de corruption est évoqué par l'accusation.
Son avocat missionne son ami Gilbert Azibert, qui travaille alors à la Cour de cassation. En échange, le magistrat espère un coup de pouce pour un poste à Monaco. « Moi, je le fais monter, je l'aiderai », promet ainsi Nicolas Sarkozy. « T'inquiète pas, je verrai le prince ». Le magistrat n'aura finalement pas ce poste sur le rocher.
Nicolas Sarkozy promet d'être combatif, parle d'un scandale qui restera dans les annales. Il s'est défendu le 13 novembre dernier chez nos confrères de BFM.
Je sais maintenant qu'il ne suffit pas d'être innocent pour ne pas avoir d'ennui. Que j'ai un téléphone pour parler avec mon avocat ne fait pas de moi un délinquant. Parce que la vraie voyoucratie, madame, c'est de mettre sous écoute les plus grands avocats de Paris pour se payer Sarkozy.
Nicolas Sarkozy risque 10 ans de prison pour corruption et trafic d'influence. Alors, suivrez-vous le procès? Comprenez-vous ces écoutes entre un avocat et son client?
Mais où est-on? Si dans l'univers de M. Poutine, on se comportait comme ça. Mais nous sommes le pays des droits de l'homme, quand même.
La justice a-t-elle en ligne de mire Nicolas Sarkozy?
Les magistrats du parquet national financier n'ont pas hésité à comparer les méthodes de Nicolas Sarkozy dans cette affaire à celles d'un délinquant chevronné.
Y a-t-il un acharnement contre l'ancien chef de l'État?
Je suis à plus de 200 heures d'interrogatoire. J'ai répondu à tout. Et les Français doivent le savoir. Qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas. J'ai beaucoup de défauts et sans doute ai-je fait beaucoup d'erreurs. Je ne suis pas un pourri.
Avec nous en studio, le politologue Jean Garrigue, président du comité d'histoire parlementaire et politique.
Politologue et historien. Bonjour monsieur Garrigue.
Bonjour Pascal Pro.
Un ancien chef de l'État dans un tribunal. J'ai peur qu'il faille remonter à très loin et que ce soit Philippe Pétain.
Ah, oui, je considère que... Mais Philippe Pétain avait rompu avec la République. C'est donc le premier chef d'État républicain qui est comparé devant un tribunal.
C'est-à-dire que ce n'est jamais arrivé.
Ça n'est jamais arrivé.
Puisque Jacques Chirac ne s'était pas présenté pour des raisons de santé.
Il a quand même été condamné à 2 ans de prison avec sursis. Mais il n'était pas là.
Ce procès va durer jusqu'au 10 décembre. C'est plus long que le procès Jonathan Daval.
Oui, parce que c'est un procès qui est très important, qui a une signification politique très 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 forte, et parce que l'équipe d'avocats de Nicolas Sarkozy est une équipe quand même qui est rompue à tous les arcanes des procédures, etc.
Qu'est-ce qui va se dire pendant autant de temps? Parce que les faits sont assez maigres. J'ai envie de dire, c'est des écoutes qu'on reproche à l'ancien président de la République. Donc qu'est-ce qui peut se dire jusqu'au 10 décembre?
Je pense que ce qui va se dire va tourner autour de la possibilité pour la haute autorité, pour le parquet financier, d'avoir, pour les magistrats de l'époque, d'avoir justement procédé à des écoutes et d'avoir, y compris, transféré ces écoutes sur un téléphone qui, a priori, n'était pas à la ligne de Nicolas Sarkozy. Je pense qu'ils vont beaucoup jouer sur ce... D'ailleurs, on voit bien que la ligne de défense de Nicolas Sarkozy, c'est de considérer ça comme une entrave à la liberté, de jouer aussi sur l'image très négative que les écoutes téléphoniques ont dans notre histoire. Vous parlez du maréchal Pétain, ou même au temps de la présidence de François Mitterrand.
Bien sûr, donc, surtout d'ailleurs François Mitterrand.
Voilà, on va, je pense que la défense va beaucoup jouer là-dessus.
Alors, vous connaissez évidemment le principe de cette demi-heure. Vous allez pouvoir échanger avec les auditeurs qui vont, pourquoi pas, vous poser des questions. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Merveilleux Laurent Gérard. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de droit.
Oui.
Alors, votre sentiment sur cette affaire Sarkozy?
Moi, j'aimerais d'abord, en tant que juriste, qu'on dise une chose très claire, c'est que Nicolas Sarkozy, comme les autres, il a le droit à un principe fondamental qui est très bafoué par les médias de plus en plus, je suis désolé de le dire, c'est la présomption d'innocence.
D'abord, vous avez raison, mais je ne trouve pas qu'au contraire, ce soit de plus en plus bafoué. J'ai le sentiment que les journalistes sont infiniment plus prudents aujourd'hui qu'ils ne pouvaient l'être il y a 30 ou 40 ans.
Moi, j'ai pas tout à fait cette impression-là. Jonathan Daval, on avait fait un coupable et un condamné avant l'heure.
Il avait avoué.
Oui, certes, mais même en avouant, on n'est pas coupable. Même en avouant, on est innocent. C'est ça que les gens veulent pas savoir. Il y a du droit en France. Donc le droit constitutionnel, justement, dit la chose suivante. La déclaration de 89, elle est claire, elle est nette. Elle est peut-être même trop importante. Elle est devenue trop importante, à mon avis, j'ose le dire. Mais elle prévoit la présomption d'innocence.
Donc, mais là, de toute façon, vous avez raison. Mais c'est une ligne de crête, et vous avez raison. Et c'est pour ça que c'est compliqué pour un journaliste de parler d'une affaire lorsque, en l'occurrence, Jonathan Daval a avoué, et de le présenter comme présumé innocent. Ce que font quand même beaucoup de jeunes journalistes, notamment, qui sont très rigoureux sur ce point-là. Mais sur l'affaire Sarkozy, puisque Jean Garrigue est avec nous, est-ce que vous avez peut-être une question à formuler?
Savoir exactement, à son avis, si, il l'a déjà dit un peu en début d'émission, mais si on avait déjà eu un chef d'État, alors pas mis en cause dans les tribunaux, mais mis en cause pour des faits théoriquement aussi importants, aussi graves. J'ai pas souvenir de ça, moi je suis pas du tout historien. Est-ce qu'il y a déjà eu un chef d'État ou un ancien chef d'État mis en cause pour des faits graves?
Il y a Lucas Chirac, bien sûr.
Oserais-je dire, cher Pascal, que c'était peanuts?
Oui, enfin, Jacques Chirac, c'était quand même la question des emplois fictifs de la mairie de Paris. C'était pas tout à fait peanuts, parce que d'abord, ça concernait des sommes, j'allais dire, plus importantes que celles qui sont éventuellement en jeu dans l'affaire de Nicolas Sarkozy, en tout cas dans cette affaire-là, précise de bismuth et des écoutes. Et puis, c'était tout un système de financement occulte de la vie politique à travers ça qui était révélé. Bon, on pourrait évoquer... Mais c'est très très loin. Au début de la Troisième République, le président Jules Grévy, dont le gendre avait été pris, alors là, vraiment pris sur le fait pour avoir été corrompu pour faire des trafics de Légion d'honneur, ce qu'on appelait l'affaire des décorations, en 1887. Et le président de la République avait été impliqué parce qu'on pensait qu'il était au courant des affaires de son gendre. Et il a été amené à la démission. Il a démissionné à l'époque, au bout de quelques mois. Mais c'est vrai que cette affaire-là, avec la gravité des imputations juridiques, parce qu'il y a délit d'influence, il y a corruption, pacte de corruption, dans le rapport 2014, c'est quelque chose de très fort.
Mais oui, c'est très fort, c'est vrai. C'est vrai que c'est assez, éventuellement, pour garder mes propos de tout à l'heure, qu'éventuellement cela se soit passé. Imaginons une seconde que les juges jugent et condamnent Nicolas Sarkozy. Alors nonobstant les voies d'appel, ça serait d'une gravité énorme. Là, ça serait du jamais vu dans toute l'histoire de France. Imaginez une condamnation pour ces faits-là. On n'en est pas là, mais imaginons, puisqu'on se positionne, droit à la présomption d'innocence, totalement. Elle vaut pour chacun, mais imaginons
un peu... Vous êtes passé de la présomption d'innocence à la présomption de culpabilité en deux minutes, cher Raphaël.
Imaginons un seul instant qu'il soit condamné. La déflagration.
Mais j'entends bien ce que vous dites, mais vous êtes en train de faire ce que vous reprochez aux journalistes, d'anticiper.
Il y a deux minutes, vous
me disiez que les journalistes font des choses qu'ils ne devraient pas faire.
On fait des scénarios, je suis bien d'accord avec vous,
Raphaël.
Vu ce qui pèse sur ses épaules, c'est quand même, on n'a jamais vu.
On n'en est pas là, de toute façon, on n'en est pas là.
Il est innocent, le procès va...
Ça va être intéressant, d'ailleurs.
Espérons qu'il puisse se mener à bien, espérons.
Et on rappelle peut-être devant quel cour il passe et qui va le juger, ça c'est important.
Tribunal correctionnel. Donc ce sont des juges, des magistrats professionnels.
Mais il
encourt une peine qui peut aller jusqu'à 10 ans de prison. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus grave que ce qui a été infligé à Jacques Chirac. Mais en même temps, avec cette nuance que, j'allais dire, le fait qui lui est reproché, éventuellement la pression sur M. Azibert, n'est pas prouvé. Donc il y a une intentionnalité qui semble prouvée par les appels téléphoniques. En revanche, le fait d'avoir corrompu, je dirais, n'est pas prouvé. Donc,
mais alors pourquoi est-il renvoyé si ce n'est pas prouvé? C'est ça qui est... C'est un faisceau, ce que vous appelez le pacte de corruption.
Oui, mais il est renvoyé parce que juridiquement, mais notre auditeur pourrait vous le dire mieux que moi, mais juridiquement, ce qui compte, c'est l'intentionnalité.
Et donc, il
entre dans le cadre de la corruption.
Il y a un faisceau d'indices. Des pénalistes savent ça. Moi, je ne suis pas pénaliste, mais ils savent. Il y a un faisceau d'indices concordant qui amène le juge à avoir poursuivi et à le déférer devant un tribunal. Voilà. Après, il appartiendra à sa défense de démontrer que tout ça ne tient pas, que procéduralement ça tient pas, que juridiquement ça tient pas. Ça sera le lot du jeu du tribunal correctionnel. Mais là, il y a un faisceau d'indices concordants qui ont fait que. Voilà. Après, je présume que ces avocats sont des avocats de haute tenue.
Hervé Temim.
Oui, donc,
qui était présent dans le procès Tapi. C'est ça qui est d'ailleurs tout assez étonnant, c'est qu'on retrouve finalement... J'ai l'impression qu'il y a à Paris 30 meilleurs avocats de Paris. Alors, je ne sais pas si c'est 30 ou 20 ou 40.
Ils sont une petite...
Pardon ?
Il y avait un pacte des loups, est-ce qu'il y aurait un pacte des avocats ?
Non, je pense que Hervé Temim est très efficace, très brillant et très remarquable, et que c'est aussi simple que ça. Alors
ça,
on pourrait
droit,
en citer d'autres, bien sûr.
Juridique. Ça va être une très belle bataille juridique, à mon avis.
Mais c'est vrai qu'on est frappé de toujours voir dans les grandes affaires et parmi les clients les plus prestigieux, qui aussi ont les moyens, disons-le, de s'offrir les ténors du barreau, comme
dont,
on disait.
Dont Maître Dupond-Moretti, qui a figuré défenseurs de Nicolas Sarkozy.
Bien sûr.
Bon, écoutez,
marquons une page de pub, Raphaël, et on va revenir pour conclure sur ce sujet avec Jean Garrigue, qui est historien avec nous.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
14h17, nous sommes avec Rachid, bonjour.
Oui, bonjour.
Toujours sur cette affaire Sarkozy. Notre question, d'ailleurs, a été assez simple. Suivrez-vous le procès de Nicolas Sarkozy. Et tout à l'heure, au début de notre émission, à 12h30, avec Christelle Rebière, il y avait moins d'un Français sur cinq qui se disait intéressé par ce procès. Ce qui ne nous a pas donné le moral, puisqu'on parle de ça depuis une heure. Rachid.
Oui, bonjour Monsieur Pascal.
Bonjour.
Bonjour Monsieur Garrigue.
Bonjour Monsieur.
En fait, moi, ce qui me fascine dans cette histoire, en fait, c'est pas en fait la finalité d'elle-même, parce que je pense que Monsieur Sarkozy, à part le fait que en fait, s'il est condamné, ça va hypothéquer peut-être sa future vie politique. Je pense pas qu'il encourt qu'il aura vraiment des conséquences graves pour lui. Moi, ce qui m'intrigue, c'est qu'en fait, qu'est-ce qui va rester de tout ça? Parce que si vous avez remarqué, chaque fois qu'on a une affaire de la sorte, qu'on a un politicien ou même un influent dans les médias, qu'il soit économique ou financier, et qu'il se retrouve devant des juges, en fait, il va taper sur l'institution judiciaire. Et du coup, je me dis que moi, un simple citoyen, je pense que beaucoup de Français pensent la même chose, est-ce qu'on aura toujours raison de croire en cette institution? Vous savez, on est passé par une séquence qui est un petit peu très compliquée avec la crise sanitaire. On croyait quand même dans l'institution sanitaire et maintenant on n'y croit plus parce que déjà ils se sont un petit peu, entre guillemets, pour être gentils, chamaillés entre eux. Et il y a eu la même séquence avec l'institution de policière. En fait, on l'a mis un petit peu en mal parce qu'on a toujours, en fait, on pointe toujours le fait qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est pas aussi clair que ça. C'est pas aussi juste que ça. Je peux comprendre que quelqu'un qui se retrouve devant les juges, qui peut toujours, moi je suis fasciné par Monsieur Sarkozy, par sa combativité. C'est vraiment quelque chose qui me fascine chez lui, même si on n'est pas dans le même bord. Et la question que je veux poser,
elle est excellente,
monsieur,
cette question. Effectivement, la remise en cause perpétuelle de l'autorité judiciaire peut-elle troubler l'opinion publique?
Mais bien sûr, moi je pense, oui.
C'est, la démocratie, c'est un champ de mine pour tout pouvoir. Et c'est vrai que depuis quelques années, l'institution judiciaire, elle a été beaucoup remise en cause. C'est une ligne de défense permanente des politiques depuis que l'institution judiciaire s'est vraiment emparée des affaires. Il y a une trentaine d'années, en fait, ça a commencé dans les années 90, ce qu'on appelait les petits juges. La presse aussi, la presse d'investigation a beaucoup augmenté ses efforts depuis cette période-là. Et donc, il y a eu mécaniquement une critique qui a monté de l'institution judiciaire. Mais ce que je veux rappeler quand même, c'est que cette critique de l'institution judiciaire n'arrive même pas à la cheville de la critique des élus et du monde politique. Ce qui est très grave, c'est que vous avez quand même dans les sondages depuis une dizaine d'années, entre au moins deux tiers et trois quarts des Français qui pensent que leurs élus sont corrompus. Trois quarts des Français qui pensent que qu'on ne fait pas suffisamment contre la corruption. Deux tiers qui pensent que depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, on ne fait pas suffisamment contre la corruption. Alors ça fait quand même, ça fait un désaveu, une délégitimation comme ça des pouvoirs. Alors là, c'est pouvoir contre pouvoir. Hein. On n'a pas confiance dans les juges, mais on a encore moins confiance dans les élus. Et franchement, c'est quand même très inquiétant pour une société.
Mais merci Rachid pour cette observation.
Juste en fait une question que je voudrais poser à Monsieur Garrigue, c'est que en fait dans l'histoire, est-ce que le fait que les élus eux-mêmes, ils commencent un petit peu à attaquer les institutions, est-ce que ça peut pas être quelque chose de grave pour l'avenir d'une nation?
Mais évidemment que c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'il faudrait essayer d'éviter en permanence. Mais vous savez bien que certaines formations politiques, certains partis prospèrent au fond sur cette délégitimation des élus. Ça a été toute une histoire. Alors bon, je vais pas la reprendre de ceux qui étaient hostiles au système républicain et surtout au parlementarisme. Ça, c'est l'anti-parlementarisme. C'est une vieille chose de la vie politique française. Ça fait beaucoup de mal. Et je le répète, là, on aurait intérêt à ce que Nicolas Sarkozy, de son côté, ne soit pas dans une critique systématique de l'institution judiciaire. C'est ce qu'il fait depuis toujours. Peut-être aussi qu'il a été, c'est vrai, la cible d'un nombre d'investigations. C'est à peu près une dizaine d'affaires qu'il a sur le dos. Et c'est peut-être là aussi le signe d'un certain acharnement. Il y a aussi quelque chose là qui pose problème. Donc ils se sont délégitimés eux-mêmes, en quelque sorte. C'est bien ça le souci. On a eu des juges qui, sans doute, ont souvent exagéré, ont été un petit peu le jouet de tentations politiques. Et puis vous avez des politiques qui n'ont pas compris qu'aujourd'hui, les Français voulaient de la transparence, voulait de l'intégrité, voulait des choses que, bah, qui nous rapprochent au fond de ce que sont les exigences dans les pays scandinaves. Voilà.
Merci beaucoup Arachid. Cédric, qui sera peut-être notre dernier auditeur. Bonjour Cédric.
Bonjour Pascal.
Et ce sera un nouvel avis que vous donnerez sur ce procès qui a commencé.
Voilà. Ben, moi je trouve que encore un énième procès pour Nicolas Sarkozy. Moi c'est exactement ce que c'est, je trouve que c'est de l'acharnement. À un moment donné, je me demande s'il n'y a pas un acharnement des juges. Il est peut-être mouillé dans des affaires, peut-être, mais il y a vraiment quand même un acharnement. Et pourquoi toujours Nicolas Sarkozy et pourquoi pas aussi d'autres hommes politiques, hein? Parce qu'effectivement, quand on dit qu'on décrédibilise la classe politique, forcément, parce que tous maintenant, tous autant qu'on est, on a un petit avis sur ça va du maire de la commune de 5000 habitants au maire de la grande ville jusqu'au président de la République. On a tous notre opinion en disant ils sont tous mouillés, ils sont tous parce que c'est des hommes d'influence. Même dans le petit village, dans la petite ville de 5000 habitants, vous avez déjà de l'influence. Et donc, pourquoi Nicolas Sarkozy toujours, mais c'est un acharnement. Hein, et à chaque fois, il est souvent pas condamné, donc il manque de preuves, donc pourquoi toujours s'acharner sur lui et pas, je sais pas, est-ce qu'on veut le faire condamner, est-ce qu'on veut le faire emprisonner?
Alors il y a l'affaire Big Magnon, on l'a dit, il y a donc l'affaire des écoutes qui entre en ce moment, et puis il y a accusation de financement libyen de la campagne en 2007. Là c'est les grandes affaires qui empoisonnent la vie de Nicolas Sarkozy.
Ouais, il y a une autre affaire aussi de sondages qui ont été commandés à Patrick Buisson à l'époque. Il y a comme ça beaucoup d'affaires qui tournent autour de lui. C'est très difficile de répondre à votre question, savoir si c'est de l'acharnement ou si peut-être que Nicolas Sarkozy, c'est ce qui se dit quand même beaucoup, a peut-être parfois été ou a laissé son entourage, je dirais, mettre un peu la main dans le pot de confiture, aller un petit peu plus loin que la ligne jaune de l'intégrité, de ce qui est nécessaire. C'est un personnage
avec
clivant.
Avec la prudence quand même, hein, bien sûr, nécessaire.
Il faut insister sur la présomption d'innocence. Voilà. Il est présumé innocent. Mais il est possible que, mais à l'instar de toute une génération, je pense, d'hommes politiques, il y ait eu quelques libertés avec la règle, un certain sentiment d'impunité, mais ça n'est pas réservé à Nicolas Sarkozy, parce qu'on a toute une génération de politiques, on a vu ce qui était arrivé à François Fillon, à Jacques Chirac et à d'autres, à François Mitterrand aussi d'ailleurs. Donc vous voyez, il y a quand même là aujourd'hui, finalement, peut-être c'est un symbole, au fond, Nicolas Sarkozy.
Voilà, et Nicolas Sarkozy, c'est ce que vous allez souligner, c'est quand même quelqu'un de très clivant. Et moi, ma question, c'est est-ce que justement, il est tellement clivant que c'est pour ça qu'on s'acharne peut-être sur lui? Parce que je pense que, comme vous l'avez très bien résumé, je pense que tout le monde est à la limite dans ce milieu-là.
Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'avocat de Gilbert Azibert, l'un des prévenus, demande le renvoi du procès pour des raisons médicales. Donc, j'imagine que c'est une décision qui pourrait être prise en début de procès. Est-ce qu'il sera renvoyé ou non, ce procès? Merci, Cédric, de votre analyse. On a bien compris pour vous quelle était la motivation de tout cela. Le fait que Nicolas Sarkozy, selon vous, soit clivant et que ça déchaîne, pourquoi pas, des passions. Il est 14h26. Laurent Tessier va nous donner la réponse à la question. Et j'aperçois Flavie Flamand. C'est toujours un plaisir de voir Flavie le lundi, mais aussi le mardi et tous les jours venir prendre notre succession dans ce studio. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.